voix nue, par Céline Duchesnet. Toute cette semaine, nous sommes avec Claudie Hunsinger, artiste plasticienne et romancière. Quatrième épisode, Les Bien-aimés. Bonsoir Claudie Hunsinger.
Bonsoir Céline.
Lors de nos trois premières soirées passées ensemble, nous avons été à vos côtés, enfants sauvages et poètes. Puis nous vous avons suivi à Bambois, votre maison isolée en pleine montagne vosgienne, où vous nous accueillez ce soir encore, un petit coin de terre où en compagnie de votre mari Francis Hunsinger, vous avez élevé des brebis, tissé des tapisseries, eu deux enfants, puis développé une œuvre artistique avec des plantes. En 2010, à l'âge de 70 ans, vous publiez un roman chez Grasset, Elle vivait d'espoir, puis un rythme très régulier, quasiment tous les deux ans, vous allez sortir un nouveau roman. Alors ce soir, dans ce nouvel épisode d'À voix nue, nous allons voir comment et pourquoi vous avez repris le chemin de l'écriture 37 ans après la publication de Bambois, la vie verte, en 1973. Est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, Claudie Hunsinger, que c'est grâce à une sorte d'héritage de votre mère Emma que tout a commencé? Un héritage particulier puisqu'il s'agit de cahiers et puis de pochettes avec dedans une correspondance.
Oui, c'est je pense que tout est venu de cette mère extraordinaire que nous avons eue. Aussi bien mes premiers petits livres de poésie que je façonnais moi-même en les cousant, qu'ensuite les livres de foin que j'ai fabriqué, puis les bibliothèques en cendres, puis les grandes pages d'herbe. J'ai l'impression que tout tourne autour de ma vie, aussi bien l'écriture romanesque que mon travail d'art plastique, que tout tourne autour du livre, des pages, du texte, du langage. Et en effet, le premier roman, le premier vrai roman, et le premier roman vrai que j'ai écrit, qui a été publié en 2010 chez Grasset avec comme titre « Elle vivait d'espoir » est le roman de la vie de ma mère, qui est une personne romanesque en elle-même et qui a vécu sa vie absolument comme un roman. Et donc, la vivant comme un roman, elle prenait des notes, elle écrivait des cahiers, elle construisait sa vie déjà comme un roman. C'est donc en 2010 seulement que j'ai écrit ce roman-là, mais auparavant, c'est d'ailleurs assez étrange, il y a d'abord eu un film. Et ce roman est né de ce film, est né des images, des photos qui étaient dans ses albums de photos. Parce que mon fils, Robin Hunsinger, est filmmaker, c'est-à-dire documentariste, il travaille beaucoup à partir d'archives, il a fait des études aussi bien d'histoire que de cinéma, et c'est un jour en ouvrant les albums photos de ma mère qu'il s'est tout à fait étonné de voir dans le même album des photos du voyage en URSS que ma mère avait fait en 1935, donc des photos de Lénine, et puis également plus tard en 1940-1945 des photos de Hitler. Alors il a voulu interroger ça. Moi, j'ai rouvert les cahiers de ma mère. Nous avons rouvert les albums photos. Et là, il s'est passé quelque chose. Je dirais un choc esthétique et un choc métaphysique en même temps. Parce que aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut agrandir les photos. On entre dans les photos un peu comme par effraction. Ces toutes petites photos, comme on les faisait autrefois, on les agrandit. On les agrandit et on découvre des détails qu'on n'avait pas vus. À la fois des détails merveilleux et des détails qui vous plongent dans l'effroi, dans l'histoire, celle de vos parents, celle de la province, celle du pays, dont on ne parlait pas, c'était grand silence, c'était tabou, c'était danger.
Vous faites allusion à votre père ?
À la fois à l'histoire de l'Alsace et à mon père qui est un Alsacien, et qui, nous l'avons découvert, et portait l'insigne du Parti National Socialiste, l'insigne nazi, à sa veste, tout petit par agrandissement, on découvre ceci, donc l'histoire. Et puis on agrandit encore les photos, et là on tombe sur les photons. Les photons, c'est-à-dire la poussière, c'est-à-dire celle dont on est constitué tous. Et c'est une histoire très forte, celle d'Emma et de Marcel, mon père. Celle d'Emma et de Thérèse, son second grand amour féminin. Et ces personnages qui tombent en poussière, pour la romancière en devenir que j'étais, étaient comme des voix, des regards qui vous appelaient. Et qui demandaient quelque chose comme une réparation, ou en tout cas peut-être quelque chose comme une autre vie encore. Et là, c'est le rôle à la fois des images, celle du le film est constitué uniquement d'archives. Je suis partie donc de ces images d'archives et des cahiers, des quatre cahiers de ma mère, puisqu'il y en a quatre. Le cahier vert, vif, celui de l'enfance, le cahier rouge, celui de la tragédie, le cahier argenté, celui de ses réflexions intimes, et un cahier vert amande, celui de sa jeunesse. Et je suis entrée également dans la masse romanesque du langage et de la vie de ma mère, et voilà comment est né d'abord un film, et ensuite moi, à partir de ce choc esthétique et métaphysique, je répète, c'était très fort, de ces personnages qui tombaient en poussière, de ce texte qui était là, je n'ai pas pu lâcher. Et c'est comme ça que j'ai écrit, mon premier roman vrai. Parce qu'il s'agit à la fois d'une vie tout à fait romanesque et en même temps vraie, parce que je n'ai pas voulu y ajouter quoi que ce soit de romancé.
Donc ça, c'est « Elle vivait d'espoir ».
Voilà.
Est-ce que, pour avancer justement dans cette exploration et découvrir les personnages dont vous allez nous parler, notamment il va y avoir deux femmes, Marcel Le et Thérèse, est-ce qu'on pourrait se concentrer un petit peu sur Emma? Est-ce que vous pourriez nous dire qui était Emma, votre mère? Parce que vous nous décrivez une femme, on est dans les années 30, assez extraordinaire dans sa liberté de penser et d'agir.
Oui, c'était ces années-là. On ne se méfiait pas des femmes encore. Elles n'avaient pas le droit de voter, mais elles avaient pris toutes les autres libertés. Oui, alors Emma, qui était-elle? Eh bien, je n'ai pas réussi à savoir exactement qui elle était. Elle était grande, blonde, resplendissante, très bonne santé, pleine d'énergie, et voulant mener sa vie, en effet, comme un roman, elle, le personnage, entourée d'autres personnages. Voilà, c'est ça. Et un personnage aussi tout à fait littératurisé, comme dit Enrique Villamatas, c'est-à-dire entièrement façonné par la littérature. Tout était littérature. Quand on se promenait, elle ne pouvait pas voir des pervenches sans parler de Rousseau. Elle ne pouvait pas voir des jonquilles sans parler de D.H. Lawrence. Elle ne pouvait, tout était littérature et référence à la littérature, et elle-même entièrement littérature. Voilà, donc c'était ça, Emma.
Elle était professeure.
Elle était professeure de lettres. Professeure de lettres françaises. Elle enseignait la littérature. Elle entraînait ses élèves dans un grand enthousiasme pour la littérature. C'était vraiment sa vie.
Avec, je dirais, un goût de la liberté inouï. C'était une femme qui adorait faire de grandes marches aussi sportives,
voilà.
Qui aimait.
Voilà, c'est ça.
Et qui aimait, librement à
tout
se
à
dire
fait.
Aussi à un moment donné qu'elle voulait avoir un enfant oui. Toute seule.
Avec, oui, à elle deux, avoir un enfant, l'élever. Oui. Oui, elle se serait appelée Manuela. Et d'une certaine manière, je pense que je suis la petite Manuela, celle qui est venue réparer leur vie à Emma et Thérèse. Oui, c'est une époque où les femmes découvraient aussi la liberté de leur corps. Elles partaient en short et grandes chaussures, elles nageaient, elles faisaient du ski. Très jeune à l'école normale de Dijon, qui était une école pour les villageoises qui voulaient continuer leurs études, avec comme professeur de littérature Suzanne Aimée. Suzanne Aimée est la sœur de Marcel Aimée. Et cette sœur de Marcel Aimée leur a enseignait, comme elle disait, à son troupeau de jeunes filles, l'émancipation par la littérature et l'émancipation également par la liberté de leur corps et de leurs amours.
Liberté aussi de réfléchir, d'avoir des opinions politiques. Emma était quelqu'un d'assez engagé.
Elle était engagée. Alors là, cette dimension politique, cette éducation politique qu'elle avait dès les années 30, ce qui est tout de même rare, Emma et Thérèse ont été éduquées politiquement par un jeune réfugié qui était venu en 1933 en France, qui était juif, allemand, bolchevique, qui crevait de faim à Paris, et elle le nourrissait, et donc elles allaient à des réunions antifascistes. D'où, pour moi, l'énigme qu'elle restera, puisque en 40 et 45, elle sera en Alsace, et là, elle semblera avoir tout oublié, tout de son éducation politique, tout.
Donc ça fait plusieurs fois qu'on entend des prénoms féminins, le prénom de Thérèse, le prénom de Marcel Le, à ne pas confondre avec Marcel avec un L, qui oui. après deviendra son époux. Donc tout ça est entreposé dans des cahiers, oui. dans une correspondance qui a toujours été accessible, parce oui. que vous dites que votre mère n'a quelque part jamais rien caché, que non. tout était là sous
non.
vos yeux.
Tout était là sous nos yeux, ce n'était pas défendu, je pense même que ce n'était pas non plus de ma part quelque chose que je faisais clandestinement, il m'arrivait de lui en parler. Et elle me parlait beaucoup de Thérèse, son second amour féminin. L'amour de la raison, l'amour politisé, l'amour d'une vie à deux, avec le rêve d'un enfant qu'elles auraient élevé à deux. Thérèse est vraiment, elle, un très grand personnage. Si j'avais à comparer ces deux femmes dans les années 30, je dirais et 40, je dirais qu'il s'agirait à la fois d'Ismène et d'Antigone. Ismène, c'est ma mère. Donc elle est devant la vie, elle veut profiter de la vie, elle veut aller dans la vie, et même parfois avec beaucoup d'opportunisme. Voilà, la vie, c'est la vie qui compte, grande, blonde, resplendissante. Thérèse était une créature beaucoup plus fragile, petite, brune, fragile, et elle, c'est Antigone. Elle, c'est celle qui est intraitable, et qui restera intraitable, et qui restera irréductible. Et pour ça, je parlais d'un bloc de cristal, et qui va mourir sous la torture pour ne pas parler, parce qu'elle sera devenue un chef de guerre en Bretagne en 40-45, alors qu'Emma, elle, était en Alsace et ne sortait pas, ne parlait plus français, cachait ses livres et se taira. Voilà, donc ces deux destins sont vraiment très, très romanesques en eux-mêmes. Et je me suis rendu compte que écrire un roman n'est pas inoffensif. Je me suis trouvée face à une matière romanesque très chargée de douleur, très chargée pour moi d'effroi. Un roman nous met en face d'une matière noire, d'une énigme, quelque chose qu'on ne sait pas résoudre. Qui était Emma ? Qui était mon père ? Je ne pourrais pas encore le dire, je ne pourrais pas comprendre. Et sans cesse, encore aujourd'hui, ces deux vies que j'ai abordées en 2010 dans « Elle vivait d'espoir » continuent en moi à faire bouger les lignes et à me faire sans cesse poser des questions. Mais pourquoi? Mais comment? Et je pense que c'est ça le roman. On lève des questions, on n'a pas de réponse.
Et je dirais même que vous avez mené une véritable enquête pour, au bout d'un moment, savoir ce qu'était devenue Thérèse, puisque la correspondance entre ces deux femmes s'arrête de manière assez brutale lorsque Emma décide d'épouser celui qui deviendra votre père.
Par la trahison. C'est voilà. une trahison.
Et après, vous allez chercher, savoir oui. ce qu'est devenue oui. Thérèse. Donc il y a cette toute petite photo oui. et puis vous menez une enquête.
C'est ça. Ça, c'est au moment du film. C'est avec Robin. Et Robin, qui est tout à fait formé pour ça. C'est la généalogie, aller l'histoire, enquêter. C'était vraiment son boulot et que j'ai accompagné. Oui, Thérèse est morte sous la torture. Torturée par des Français, arrêtée par la Gestapo, torturée par des Français à Rennes, dans la prison de Rennes. Et nous n'en savions pas plus. Emma, en 45, n'en a pas su plus. Et c'est beaucoup plus tard que nous, en faisant tout simplement une recherche sur Google, en tapant Thérèse Pierre, comme ça, par curiosité, en pensant n'arriver à rien, nous avons découvert qu'il y avait à Fougères un collège qui s'appelait Thérèse Pierre. Alors là, nous sommes allés à Fougères, nous avons rencontré le principal, qui n'en savait pas beaucoup plus. Et c'est là qu'on nous a donné la piste d'une jeune fille, qui avait été l'agent de liaison de Thérèse, qui à l'époque où nous l'avons rencontrée avait 90 ans, était encore absolument magnifique et intransigeante aussi, comme Thérèse avait été, et qui nous a parlé de Thérèse. Et qui nous a dit comme ce personnage était devenu, cette petite Antigone fragile, était devenue un chef de guerre, sans personne sous ses ordres, des hommes aguerris, dans la force de l'âge, et qui pour Thérèse était restée un mystère, mais à laquelle ils avaient fait allégeance. Et c'est là que nous avons découvert son destin. Quand ma mère s'est mariée avec Marcel, mon père, et comme elle a ressenti ça comme une trahison, comme elle est entrée alors au Parti communiste, comme elle est entrée dans la résistance, et là, je ne sais plus qui exactement dit ça très bien, ceux qui entraient dans la résistance n'avaient plus rien à perdre. Donc Thérèse était entrée là-dedans. Et elle avait bien gardé, bien conservé, bien compris les leçons de l'antifascisme. Voilà.
En tout cas, grâce à ce livre, Elle vivait d'espoir, Thérèse est sortie de l'oubli.
Mais oui, c'est ça. Ce film que nous avons fait, Robin et moi, pour la voix off, simplement.
Donc ça, ce film, c'est « Où sont nos amoureuses ?»«
Où sont nos amoureuses ?» Sorti en 2008, je crois. Le livre, en 2010. Et c'est comme ça qu'on a pris, d'ailleurs en ce moment, on continue, à prendre la mesure de ce que les femmes avaient porté sur leurs épaules pendant justement la guerre. Par exemple, la guerre, mais... Bien avant aussi, dans le monde des arts ou de la littérature, le rôle des femmes, on en a pris la mesure et on a été extrêmement, extrêmement heureux, vraiment tous les deux, qu'il y ait tout à coup une sorte de reconnaissance, qu'il y ait eu un chemin dans le 18e arrondissement qui porte son nom. Et puis c'est comme ça aussi que j'ai pu... entrer un peu en correspondance avec Annette Viapurka et que nous avons découvert que Thérèse avait une amie commune aux amis d'Annette Viapurka et que j'ai su que Thérèse n'était pas seulement peur et clandestinité et responsabilité mais qu'elle allait faire du vélo avec cette amie qu'elle a la barbe des Allemands. C'est quelque chose qui m'a beaucoup émue de découvrir un côté heureux dans la vie de Thérèse. Oui, le film, le roman, c'est aussi ça. On rend justice. C'est une façon de rendre justice à quelqu'un, à cette poussière que sont devenus les personnages dans les albums de photos ou que sont devenues les lettres dans les grandes pochettes avec des chemises de couleur. Voilà, tout à coup, il y a une sorte de réparation possible à des vies qui ont donné leur vie, justement.
Alors justement, il y a un deuxième livre qui parle de ces photos oubliées, de cette correspondance oubliée, ou en tout cas qui nous attend quelque part là. C'est L'Incandescente qui est sorti donc chez Grasset aussi en 2016. L'Incandescente, c'est le nom que vous avez donné à une autre amour de votre mère, oui. Marcel Le.
Oui, dont Marcel Dezelle, deux L.
Avec deux L, oui. Dont on parle là en pointillé jusqu'à présent. Oui. Donc Marcel, votre mère Emma l'a rencontré avant Thérèse.
Oui.
Et ça a été une passion, mais...
Le total amour.
Total amour, voilà.
Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, elles avaient 16 ans et 17 ans. 16 ans Marcel, 17 ans ma mère. Le premier amour de jeune fille dans un pensionnat. Voilà, c'est ça. Dans l'école normale de jeune fille, c'est quelque chose qui était fréquent. C'était ces amours-là, mais en même temps, ce sont des amours très importantes. Ce sont des amours entre adolescentes. Donc, il y a quelque chose là de, à la fois, encore une fois, de juvénile, d'intransigeant, de rebelle, dans ces jeunes filles. Kafka a dit ça très joliment. Il a dit « Les jeunes filles ont une curieuse manière de se suicider. Elles se marient. » Voilà, donc il y a quelque chose avant le mariage qui fait que les jeunes filles ont quelque chose vraiment d'unique et de merveilleux. Voilà, donc Marcel, elles ont été très vite séparées. Ma mère a continué ses études. Et Marcel a dû entrer tout de suite dans la vie active et enseigner à des toutes petites classes, à des maternelles. Donc séparés. Alors quoi de mieux qu'être séparés quand on s'aime? On s'écrit. Et voilà. Et en même temps, je pense que l'écriture est la façon naturelle d'aimer. Si on n'écrit pas impunément des lettres, des lettres d'amour. Les lettres d'amour entretiennent l'amour. Elles le dilatent, elles lui donnent une dimension qui atteint vraiment celle presque du cosmos parfois. Et ça a été le cas. Donc moi, je suis retombée sur ce dossier, cet énorme dossier fait de 1000 lettres de Marcel de Zelleux à ma mère, de 17 ans, je dirais, à 22 ans peut-être, 5 ans de lettres quand elles ont été séparées, et 5 ans de pure littérature, 5 ans de merveilles. Je pense que c'est les jeunes filles, dans ces années-là, elles écrivaient comme écrivait la princesse de Clèves, mais une princesse de Clèves moderne, qui aurait eu des audaces qu'elle n'avait pas. Et c'était de la pure littérature, et moi je n'ai pas pu lâcher ça non plus. Et si bien que j'ai écrit également un deuxième livre, une sorte de préquel au premier, et qui est celui de la folie de la jeunesse. Voilà, c'est la
folie. Et de la force de l'amour aussi.
Et la force de l'amour.
J'ai sous les yeux là une phrase, alors je ne sais plus si c'est, je crois que c'est Marcel qui dit ça à Emma, « Aimer jusqu'au vertige, jusqu'à la terreur du vertige et de l'emprise des sens. »
Oui. Oui, c'était ça. Je pense que c'est aussi pourquoi ma mère me parlait moins spontanément de Marcel. Alors qu'avec Hélène, c'était le grand amour, la sagesse, la vie à deux, pensée, réfléchie, avec du sens. Je cherchais du sens.
Hélène et Marcel.
Alors qu'avec Marcel, ma mère appelait Marcel sa petite joueuse de flûte. Elle y voyait aussi un jeune Rimbaud, c'est-à-dire le dérèglement des sens, le dérèglement de toute la vie sociale, de la vie sensée, de la vie ordinaire, du bon sens commun. Et c'était pas vers là qu'elle voulait aller. Mais voilà, elle l'a connue.
D'autant que Marcel était malade, elle était tuberculeuse, oui. Elle s'est retrouvée dans ces grands sanatoriums et entourée là de jeunes filles aussi qui s'étiolaient et qui mouraient à petit feu autour d'elle.
C'est ça. Et le sana est devenu pour Marcel encore un mode de vie qui l'éloignait, qui éloignait le monde adulte. Le sana était devenu, elle en avait fait même son hôtel particulier. Voilà, le sana, c'était à elle. Elle y a mis le feu. Elle a mis le feu à ces jeunes filles autour d'elle. Elle annonçait, je crois, ses conquêtes à Emma. Emma qui l'oubliait un peu parce qu'elle avait rencontré Thérèse. Donc c'était une façon aussi de rendre jalouse Emma que de lui écrire merveilleusement. Là, c'est vraiment les mille et une nuits. C'est retenir Emma prisonnière par l'écriture. Par aussi la vie, la féerie de la vie, le danger de la vie, les enfants terribles, ça venait de paraître, Cocteau, les enfants terribles, venaient de paraître. Donc elle lui parlait de ses conquêtes, elle lui parlait de sa vie, dans une langue merveilleuse, et ça a duré tout le temps du sana. Et en effet, là encore, on rencontre la mort. Ces jeunes filles sont mortes l'une après l'autre. Et là encore, on a rencontré, on a découvert... Dans notre enquête, c'est l'enquête aussi bien du cinéaste documentariste que de la romancière que je tente d'être. Qu'avons-nous découvert ? On a découvert la vie, par exemple, de Bijou. Bijou, qui était une de ces jeunes filles dans le sana, qui faisait partie du groupe autour de Marcel, qui embrasait les autres de ce feu qu'elle contenait. Bijou était une de ces jeunes filles, et nous avons découvert en faisant des recherches, et grâce à ces chemises de couleur dans laquelle ma mère gardait toutes les lettres qu'elle recevait, en mettant le véritable prénom. Donc, elle était nommée Bijou dans les lettres, mais son véritable prénom, nous l'avons découvert, Robin et moi. Et en faisant encore des recherches généalogiques, nous avons découvert que Bijou était retournée au sana, à la Sainte-Fer, avait rencontré un instituteur communiste, s'était mariée, et dès 1942 avait milité activement, avait été arrêtée par la Gestapo, était allée en camp de concentration. Y était morte 2 mois plus tard. Et c'est en retrouvant les photos, dans cet uniforme rayé, ses cheveux rasés, de face, de profil, le même petit profil de Bijou, avec ce petit nez délicieusement incurvé, ravissante On l'a retrouvée telle qu'elle était dans les albums de jeunesse 5 ans avant. La folie de la jeunesse, elle était la même, mais dans ce costume rayé et 2 ans avant de mourir. 2 mois, pardon, avant de mourir. Voilà, c'est en face de ça, de cette potentialité, de cette réalité pleine d'effervescence et encore, je dirais, de danger radioactif que sont ces résidus photographiques, ces résidus que sont les lettres, que la littérature ou que le cinéma peut venir et peut les faire renaître. Et ça, c'est quelque chose qui donne aussi un sens, qui donne aussi un sens à la littérature.
On sait que Marcel a survécu à la tuberculose, qu'elle a pu, après, vivre avec sa compagne, adopter une petite fille. Alors, vous avez choisi de ne pas rentrer en contact avec elle et de la laisser dans...
Un peu comme le grand Moon. Voilà, oui, c'est ça. Elle était le grand Moon aussi.
Mais vous dites aussi dans l'incandescente que Marcel, quelque part, c'était comme aussi retrouver une sœur, une compagne, un double de vous-même.
Ah oui. Oui, vous avez raison, tout à fait. Moi, j'ai connu Marcel, elle avait 16 ans, dans ses lettres qu'elle écrivait à ma mère. Et j'avais moi-même 16 ans, quand j'allais lire ses lettres. Et j'étais la seule de mes frères et sœurs à aller lire les lettres de Marcel, à aller la rejoindre, à aller rejoindre cet enfant terrible.
Comme vous?
Comme moi. Elle m'ouvrait un chemin. Elle m'a ouvert à la fois le chemin de rester terrible, de ne pas céder face aux grandes personnes ou face au monde des adultes, face au monde marchand, face au monde social, et de rester farouchement soi-même, l'enfant qu'on a été. Et elle m'a ouvert aussi, je dirais, mais je suis très sérieuse, elle m'a ouvert le chemin de la littérature. Parce que ces lettres qu'elle écrivait à ma mère étaient des merveilles. Et je sais qu'elle ensorcelait ma mère, qu'elle avait entortillé ma mère, rien qu'avec des lettres. Et moi, je ne souhaitais qu'une chose, c'était entortiller ma mère, c'était séduire ma mère, c'était me rendre intéressante à ses yeux. Et il est très possible que je me sois mise à écrire, moi aussi, pour entortiller tout simplement ma mère.
Merci beaucoup. Claudie Hunsinger, nous nous quittons, mais pour mieux nous retrouver demain soir, pour le dernier épisode d'Avoix Nues qui sera consacré à l'autre veine de vos romans, la nature et tous les êtres qui y vivent. Bonsoir.
Bonsoir Céline.
C'était Avoix Nues, Claudie Hunsinger. Réalisation Yvon Croisier. Prise de son Florent Layani. Chargé de programme Daphné Abgral. Une série de Céline Duchesnay à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.